tous les turns ou tournants technologiques et intellectuels que les sciences humaines et sociales ont accomplis au dernier siècle, celui de l'ère digitale semble être d'une nature différente et aussi avoir un autre mode opératoire. L'apparition et la dissémination des technologies digitales ont des retombées profondes sur la vie de tous les jours, sur la société en général et ses structures de communication. Nicholas Negroponte a défini il y a exactement 20 ans déjà cet état de digitalité comme « the condition of being digital ». Il remarque dans l'épilogue de son livre « We are not waiting on any invention. It is here. It is almost genetic in its nature, in that each generation will become more digital than the preceding one. » Oui, pour le formuler avec un clin d'œil vers nos collègues français, le changement, c'est maintenant. Cet état omniprésent et ubiquitaire de la digitalité, au moins dans notre époque actuelle, n'est pas seulement pertinent d'une manière générale pour la société, mais elle a aussi des conséquences majeures pour le monde académique et la manière dont nous faisons de la recherche. Si l'on a suivi le débat des dernières années dans le domaine des sciences humaines, il y a deux grands champs qui émergent et offrent une plateforme pour des réflexions globales sur le sujet. D'un côté, l'émergence de nouvelles cultures de communication liées à la condition générale de la digitalité auxquelles les acteurs sont soumis font débat dans le domaine de la publication scientifique, de l'open access et de l'évaluation. Ces nouvelles pratiques de communication scientifique touchent aussi bien les sciences naturelles que les sciences humaines, bien qu'avec des différences et des défis et autres. De l'autre côté, comme deuxième grand champ, nous avons l'émergence d'un « new kid on the block », pour ceux qui ne savent peut-être pas lire exactement ce qui est marqué sur mon petit cartoon. C'est un des plus anciens cartoons qui montre le phraseologisme « the new kid on the block ».« The new kid on the block told me that the next time he saw you, he was going to twist your nose ». Alors nous avons l'émergence d'un « new kid on the block » des « digital humanities », comme nouvelle discipline ou faisceau de nouvelles pratiques de recherche dans les sciences humaines et des débats autour de leur statut. Les conférences et les ateliers se consacrant au développement des humanités numériques et de leur champ d'application sont devenus entre-temps presque innombrables, presque plus nombreuses que les conférences disciplinaires. Si les humanités numériques, indépendant de la position qu'on peut avoir vis-à-vis de celles-ci, ont sans aucun doute engendrer de nouvelles méthodes et de nouveaux questionnements par rapport aux objets inhérents de la recherche en sciences humaines, elles ont aussi induit une réflexion fondamentale et aussi une mise en question de la définition et de la pratique de la recherche et de la formation en sciences humaines en général. Que ces débats ne soient pas parfois menés sans émotion, voire agression et peur, nous a été montré à nouveau récemment dans les quotidiens français et suisses, à droite, la Neue Zürcher Zeitung qui parle de Geist unter Strom, also l'esprit sous tension, sous électricité, et Libération dans une tribune signée par 12 collègues français parlant des humanistes numériques comme, je cite, des intellectuels plongés dans une hypnose collective et béate. Fin de citation. Ce soir, dans le cadre temporel mis à disposition et sous la toile de fond du titre de la conférence d'aujourd'hui, Identité, pratique et théorie, j'ai structuré ma conférence comme suit. Après un premier jeu d'idées sur la question de savoir comment les praticiens des sciences humaines aujourd'hui font de la recherche, surtout dans l'optique interdisciplinaire, j'aborderai le sujet des changements dans le domaine des cultures de reconnaissance et d'évaluation. Ensuite, je thématiserai le domaine de la publication et des changements auxquels il fait face, avant de conclure par un court plaidoyer pour un changement des pratiques académiques. Ces réflexions sont à considérer comme un think tank et sont issues d'une situation de laboratoire basée sur ma propre pratique scientifique comme linguiste et historienne du livre, sur mes expériences comme directrice d'un des plus anciens centres d'humanité numérique en Europe et comme chercheuse engagée dans le domaine de la promotion de la recherche et de l'évaluation de la recherche, notamment au niveau européen et au niveau de la European Science Foundation. Ah, ça. Nous avons des problèmes avec la PowerPoint. Bon, ben, vous imaginez le reste de l'image. C'est la bibliothèque et l'image très connue des uns et des zéros sous la forme d'une grande bibliothèque. Pour les disciplines historiques qui se basent surtout sur des sources lors de leur recherche et la construction du savoir, l'accessibilité digitale de l'héritage culturel représente un vrai bouleversement heuristique, même si nous devons être conscients du fait que, pour le moment, et probablement encore pour bien longtemps, rien qu'une partie, une toute petite partie de cet héritage est accessible en ligne, et que cette fraction de matériel est elle-même encore présentée sous des filtres et des biais multiples. C'est surtout la sauvegarde, la documentation et la mise à disposition de l'héritage culturel dans sa diversité et hétérogénéité, qu'il soit écrit ou autre, qui nous lance les plus grands défis. Ici, nous devons développer des fondements méthodologiques, non seulement pour les humanités numériques, mais pour toutes les disciplines en sciences humaines et sociales. La question n'est donc pas vraiment la question du si des systèmes digitaux de connaissances, dans le sens s'il faut qu'ils existent, mais du comment. L'éventail des possibilités comprend des paramètres entre-temps reconnus comme le développement et l'application de standards internationaux, la disponibilité principielle du matériel dans le cadre de la philosophie de l'open access et la sauvegarde à long terme du matériel, ainsi que la mise à disposition et documentation systématique d'instruments d'analyse permettant d'accompagner l'analyse scientifique, mais aussi de contrôler la transparence et la qualité scientifique du matériel mis en ligne. Il faut donc aussi apprendre à se détacher d'une certaine euphorie naïve du discours digital. Nous devons engendrer un vrai débat heuristique, une des questions sine qua non du travail scientifique, c'est-à-dire aussi mettre en question les outils et les méthodes choisies, de quelle nature qu'ils soient, et les accompagner d'un regard critique. Dans cette optique, il faut se rendre aussi à la raison que pas toutes les questions de recherche en sciences humaines doivent passer exclusivement par la baguette magique des méthodologies numériques. Il faut être capable d'en connaître les limites, qu'elles soient temporelles, matérielles ou intellectuelles. Cette critique heuristique et épistémologique devra par ailleurs faire partie intégrante de l'enseignement universitaire et des curricula de diplômes en humanité numérique. Nous avons vu tout à l'heure l'importance d'une bonne formation. Je crois que c'est un best case que nous venons juste de vivre avec les quatre collègues tout à l'heure. Parmi les différents types de projets de recherche en sciences humaines, deux grandes lignes accompagnent mon travail à moi et ces lignes peuvent parfois aussi se croiser. D'une part, les projets que j'appellerai DH-driven. Prenons comme point de départ, par exemple, le projet Scriptorium virtuel de Saint-Mathias, un projet qui a reconstruit virtuellement une bibliothèque médiévale de 500 manuscrits, aujourd'hui disloqués sur 25 sites dans le monde. À partir de ce projet est né, c'est dommage que le vice-doyen soit parti, hein, parce que nous aussi on travaille avec des algorithmes, à partir de ce projet est né eCodicology. Et c'est ce que j'appellerais DH-driven, qui permet d'analyser automatiquement, avec l'aide d'algorithmes, le layout ainsi que la micro et la microstructure des manuscrits médiévaux. Pour ce projet de recherche, les sources analysées sont digitalisées et annotées selon l'état de l'art et les standards actuels. C'est donc le paradis sur Terre. Nous avons un vase clos de recherche. C'est nos 500 manuscrits de départ. Et comme deuxième grande ligne qui accompagne mon travail de recherche, les projets que je nommerai wish-driven, with a DH need. Aujourd'hui, quand je travaille comme linguiste sur l'histoire de la notation marginale, par exemple, je ne peux pas me baser uniquement sur du matériel digital et avec des méthodes digitales. J'en rêve, bien sûr, mais les limites sont éclatantes, en partie dues à la moindre qualité des sources digitalisées ou dû au fait que les annotations qui m'intéressent ont été grattées au stylet sans encre dans le parchemin, donc non captées ou non captables par un scanner normal. Pour ce projet, le bilan à l'état actuel est celui d'une offre très hétérogène de sources digitalisées, par exemple dans des bibliothèques, dans des bibliothèques comme Gallica, etc., ainsi que des barrières technologiques qui, pour le moment, ne peuvent pas être surmontées à grande échelle pour des milliers de manuscrits médiévaux. J'ai fait le calcul, si bien sûr qu'il existe des scanners où on pourra peut-être aller voir, c'est un manuscrit du 8e siècle, si quelque chose a été gratté dedans à l'œil, pas visible pour l'œil, etc., ça nous coûterait des milliers d'euros par manuscrit. Il y en a 10 000 que je veux peut-être regarder de plus près, plus X dont je ne sais pas s'il y a des annotations dedans. Ce n'est pas possible du point de vue des méthodologies digitales pour le moment. Se baser donc uniquement sur des copies digitales, même de très bonne qualité, on ne les voit pas, ces annotations dans ces copies, dans des fonds de bibliothèque existants, serait donc une grave erreur méthodologique. Pour résumer, il faut une nouvelle heuristique, non seulement réajuster la relation entre objet historique, dans le cas mes manuscrits, et observateur scientifique, qu'est le chercheur, mais aussi les formes d'existence fondamentales de ces deux acteurs dans le processus scientifique, qui, selon les circonstances, pourraient être désincarnées, détemporalisées et délocalisées. Il s'agira aussi d'explorer le rapport entre l'objet historique en soi, analogue si vous le voulez, avec ses formes palpables, ses odeurs, son toucher, etc., qu'il ne faut pas oublier, et ses représentants ou abstractions dans le domaine digital, ou, comme l'a formulé Ségolène Tarte, travaillant sur des papyrus, ces avatars digitaux, ces derniers pouvant avoir leur forme propre d'existence et aussi présenter leurs propres risques quant à leur manipulation et gestion scientifique. Et bien sûr, il faut aussi penser aux digital born objects qui ont été conçus et existent exclusivement dans le monde digital, comme par exemple des reconstructions 3D ou 4D d'un document écrit qui aujourd'hui n'existe plus que comme fragments carbonisés. Pour toutes ces variétés d'objets de recherche, il faut développer et définir des heuristiques propres. Je crois que c'est très important de mettre l'heuristique au début aussi de la formation en sciences humaines. Mais l'enjeu dans le domaine des humanités numériques est aussi de ne pas seulement trouver des réponses à des questions d'aujourd'hui que nous pouvons déjà formuler, mais aussi d'entrouvrir des portes potentielles pour des questions futures ou des nouveaux observables, comme Jean-Guy l'a formulé, que nous ne pouvons peut-être même pas concevoir aujourd'hui, ou des questions ne relevant pas de notre propre discipline, mais d'une discipline voisine travaillant sur les mêmes sources. Ceci n'a rien de messianique, mais relève de la pragmatique et de nos responsabilités vis-à-vis de nos collègues maintenant et dans le futur. Dans ce cadre, il faut aussi souligner que les projets digitaux sont, en comparaison avec des projets plus traditionnels, plus onéreux, et de ce fait, l'argent ne sera habituellement dépensé qu'une seule fois par les organismes de financement scientifique. Cette responsabilité nouvelle requiert une ouverture méthodologique peu courante, devant parfois encore être apprise et engendre une disposition fondamentale vers l'interdisciplinarité. En fait, souvent, elle nous ramène à nous souvenir des racines de la pensée humaniste qui fut toujours une pensée interdisciplinaire avant que la ramification des disciplines, particulièrement au XIXe siècle, ne les compartimentalise. En sus, nous observons une perméabilité croissante des compétences et des frontières disciplinaires, ainsi qu'une collaboration renforcée entre les dépositaires des sources, les archives, les bibliothèques et les musées, et les scientifiques eux-mêmes. D'aucuns en déduisent un danger, dans le sens que l'interdisciplinarité si prônée par certains engendre la fin des disciplines si défendues par les autres. Mais à mon avis, la question est mal posée. Il s'agit avant tout de la nécessité de communiquer entre les disciplines afin de mieux se concerter et mieux comprendre ces phénomènes qui sont nos objets de recherche communs. Si les humanités numériques ont eu, sur la toile de fond de tout ce que leurs critiques peuvent leur reprocher, s'ils ont eu un seul effet positif, peut-être avant de disparaître dans le futur comme discipline singulière, c'est bien celui-ci, que des disciplines en sciences humaines, parfois si isolées les unes des autres, dans leur propre jus, se parlent à nouveau sur pied d'égalité. Presque toutes les conférences organisées ces dernières années en humanité numérique, y compris la nôtre à Montréal, en sont la preuve vivante. Aucun tournant intellectuel et méthodologique du siècle passé n'a su réaliser cet exploit. Au contraire, beaucoup de ces tournants se sont plutôt déroulés dans les disciplines isolées et se sont ensuite déployés de façon très exclusive, parfois successivement comme une vague sur les disciplines voisines. Le Digital Turn a bien sûr aussi une histoire disciplinaire, mais entre-temps, il offre une chance qu'il ne faut pas oublier de saisir, celui d'être un vivier, un écosystème d'échanges interdisciplinaires sans que les disciplines en disparaissent. Dans cette optique, il est bon de devenir un peu plus serein en ce qui concerne le débat de l'essence, nous avons parlé d'identité dans le titre de la conférence, le débat de l'essence ou du caractère disciplinaire des humanités numériques. Ne plus jouer le jeu de la justification pour parler avec le philosophe contemporain allemand Richard David Precht, « Qui suis-je ? Et si je suis, combien ?» Une question que les Digital Humanities ont bien se poser les dernières années. Les cartes ont été assez longtemps sur la table et osons jouer maintenant un autre atout, celui de l'intégration isomorphe et bilatérale. Par exemple, l'histoire digitale reste de l'histoire et inversement, l'histoire est bien sûr aussi l'histoire digitale et comme le formula Marek König, ce n'est plus un choix, mais une réalité. En tant qu'historienne de la langue, j'aimerais parler ici d'un processus de digitalisation des sciences humaines en analogie avec un phénomène de changement linguistique que nous appelons grammaticalisation. Celle-ci se définit comme l'émergence, dans la longue durée, de nouvelles structures grammaticales sur la base de formes déjà existantes. Ce processus est généralement unidirectionnel et non réversible. Similairement, dans les humanités numériques, nous avons affaire à de nouvelles structures et méthodes digitales de recherche sur la base de fondements déjà existants, les textes, les objets et les idées. Les sciences humaines en font, grâce à des outils divers et combinables, l'analyse et l'interprétation. Ce dernier acte, l'interprétation, restera, pour parler avec Franco Moretti, toujours une pratique humaniste à part entière. Partons d'un exemple du domaine de la lexicographie digitale et de ses enjeux interdisciplinaires. Des enjeux qui sont liés, comme j'aimerais le nommer, en analogie avec la conférence de Lausanne de 2013, organisée par Claire Clivas et ses collègues, la lexicographie délivrée, donc échappée des volumes imprimés, et émancipé en quelque sorte. Le point de départ est le Digital Lexicographic Network, Wörterbuchnetz, un projet purement linguistique réunissant et reliant entre eux les 24 grands dictionnaires historiques, dialectaux et de grands auteurs comme Goethe sur une plateforme de recherche digitale de la langue allemande. Ce projet est en plein épanouissement depuis plus de 15 ans. Il a environ 20 000 utilisateurs par jour. Ce silo du savoir lexical part de l'allemand, mais pourra aussi être successivement agrandi par des dictionnaires d'autres langues. Nous avons déjà les dialectes alsaciens et lotharingiens, etc. dedans, et donc nous pouvons l'agrandir. Afin de devenir une infrastructure de recherche lexicographique multilingue. Mais, et c'est ça qui m'intéresse aujourd'hui, nous pouvons aussi quitter le monde purement linguistique et disciplinaire et appliquer les méthodes de lexicographie digitale à d'autres disciplines et intégrer la dimension multilingue dès le départ. C'est par exemple le but du projet franco-allemand Métalex, métalexicographie digitale des langues historiques du droit en Europe. Un projet réunissant la linguistique, l'histoire, l'histoire du savoir et l'histoire du droit sur la questionnement, sur la question du développement du vocabulaire juridique de 1700 à 1900. Métalex est conçu comme un système d'information historique et conceptuelle des langues européennes du droit. Contrairement à un dictionnaire traditionnel, il ne propose pas d'entrée, mais retrace l'évolution des notions historiques grâce aux processus digitaux d'analyse et de visualisation ayant comme point de départ un corpus diversifié, dynamique et multilingue dans le domaine du droit pénal. La focale n'est pas resserrée sur un mot isolé, par exemple ici dans le traité central de Beccaria contre la peine de mort, un traité vraiment central aussi de l'époque du XVIIIe siècle. Donc nous avons ici pas un mot, par exemple « prison », mais sur un item lexical multilingue, Gefängnis, Zuchthaus, Workhouse, enfermement, etc., parce que nous ne pouvons pas traduire du mot à mot avec des mots d'aujourd'hui les concepts d'hier. L'utilisateur peut alors regrouper lui-même les informations issues des différentes sources, ici les traductions du Beccaria qui ont été issues autour de la première édition et entre autres les situer dans leur contexte temporel et spatial. Le projet est nouveau, il n'a pas encore de site où ça fonctionne parce qu'on vient juste de commencer, et il est ancré dans une approche historique, mais pourra servir à long terme de patron pour une élaboration du multilinguisme juridique actuel en Europe et les réflexions qu'il suscite. Le projet aura donc un impact dans la vie de tous les jours, dans le sens que Miriam Posner a formulé récemment sur le potentiel radical non réalisé des humanités numériques et l'enjeu de, je cite, « to develop models of the world that have any relevance to people's lived experience ». Cet enjeu n'est pas seulement vital dans le domaine des gender et diversity studies auxquels Posner se réfère, mais bien sûr pour toutes nos disciplines. Une approche similaire est prise par le projet LexArt, Words for Art, The Rise of a Terminology, dirigé par Michel-Caroline Eck de l'Université de Montpellier. Ici, historien de l'art, linguiste et humaniste numérique travaille sur une plateforme de recherche visant à étudier le développement du vocabulaire artistique en usage au nord des Alpes dans les traités sur l'art publiés en français, allemand, néerlandais, anglais et latin de 1600 à 1750. Les grands termes et notions de l'art seront ainsi analysés en close reading et présentés dans des réseaux sémantiques qui permettront de mieux cerner le développement du langage de l'art en Europe et comment ces protagonistes ont travaillé vers un langage commun. Ici aussi, la collaborativité est au centre du projet dès le départ. Donc moi, j'apporte des doctorants en linguistique historique qui travaillent de façon linguistique sur le projet, alors que Michel-Caroline Eck, qui est la PI de ce projet, apporte ses historiens de l'art dans le projet. Ces formes nouvelles de faire les sciences humaines, dans le sens anglais de « doing humanities », touche et questionne le positionnement des sciences humaines dans le système global scientifique. Les débats pour un organisme futur des sciences humaines sont virulents, particulièrement au niveau européen, où l'air devient rare en ce qui concerne le financement de la recherche, notamment dans le cadre du programme Horizon 2020, dont vous avez peut-être déjà entendu parler. Il n'y a qu'une toute petite porte pour y arriver dans les sciences humaines, et c'est la porte digitale. Dans la course au financement tiers, ou pour le formuler plus durement, la mercantilisation de la recherche, Il s'agit aussi de sauvegarder la position indépendante de la recherche en sciences humaines et ses différences vis-à-vis des sciences dures. En ce qui concerne la reconnaissance dans le milieu académique lui-même, nous observons un certain enlisement des positions vis-à-vis de l'évaluation et de la promotion des carrières académiques. Celles-ci sont mesurées de façon privilégiée par le montant des financements tiers et le nombre de publications, et ceci de plus en plus tôt dans la biographie académique d'un chercheur. Dans les ERC Starting Grant Panels s'ajoute par exemple un très très grand rôle. Les conséquences en sont néfastes et engendrent un certain cercle vicieux. D'un côté, pour ne citer qu'un exemple, même pour les humanités numériques, nous prônons haut et fort de nouvelles cultures d'évaluation et de publication. De l'autre côté, le système même auquel on veut appartenir impose ses anciennes règles, engendrant une marée de publications souvent très traditionnelles chez des éditeurs chics mais onéreux. Ceci se fait surtout dans un but, satisfaire aux critères de promotion et de sélection dans les filières académiques où l'on aimerait lire la valeur scientifique de chaque chercheur, préférablement en lui extrayant un chiffre coefficient, comme s'il s'agissait de lui en prendre la température. À mon avis, l'architecture du système académique traditionnel et les règles dont elles font l'objet doivent être revisitées de façon substantielle par tous les acteurs concernés, et cela sur base de consensus internationaux. Cela inclut par exemple la réglementation des contrats de recherche et de leur prolongation, la révision des barrières administratives souvent contraignantes, l'accroissement de la transparence et la diminution du système de vases clos dans la sélection académique, pour ne nommer que quelques exemples. D'un autre côté, il est à espérer, comme personne optimiste je le fais, que les développements actuels, particulièrement dans le cadre des humanités numériques, vont devenir une force stimulante pour des processus de transformation sur un niveau global. En effet, certains éléments clés dans une carrière académique en humanité numérique reposent sur des prémices nouvelles qui sont étroitement liées avec la manière dont la recherche est conduite dans ce domaine et qui, de ce fait, apportent de nouveaux éléments pour la reconnaissance et l'évaluation scientifique, à savoir l'hybridité des méthodes de recherche et de l'approche scientifique, la multimodalité des questions de recherche fondamentales et les combinaisons multiples des approches choisies, l'interconnexion non seulement des données de recherche et des corpus, mais aussi des questions de recherche et des chercheurs associés dans ces démarches, ce qui engendre l'interdisciplinarité et la collaborativité. Et particulièrement, et ceci est une vraie renaissance dans le domaine des sciences et une chance constitutive des sciences numériques, une valorisation et accentuation du multilinguisme et de la diversité de la recherche en sciences humaines. Les acteurs engagés dans les humanités numériques ne sont de ce fait, pour le formuler de façon un peu provocante, non plus monodimensionnels, c'est-à-dire axés sur une seule discipline, bien qu'ils en aient une, bien sûr, ou sur un seul sujet thématique. Et cela, tout comme leur discipline, les humanités numériques, ne sont pas une initiative monodimensionnelle, même si certains aimeraient les confiner, par exemple, au domaine de la linguistique informatique ou des big data. Les conséquences à tirer de ce nouveau type de recherche sont multiples pour le domaine académique et administratif. Il faut revoir les grilles de salaire, avec des traitements égaux entre techniciens et chercheurs, par exemple. Permettre des ouvertures entre les filières professionnelles et des agencements de postes plus adaptés aux projets et aux infrastructures. Et surtout valoriser ces travaux fastidieux de méthodologie, de technologie et d'infrastructures dans des projets digitaux, des travaux qui sont souvent invisibles pour des évaluateurs non avertis. Ces aspects sont étroitement liés à une autre facette de la reconnaissance académique, celle qui s'articule dans le domaine des cultures de publication. La belle image de la de l'exposition de UBC Vancouver sur les cultures digitales a été un peu aussi fadée, mais je peux peut-être mettre le tout en ligne, alors on les verra. L'avenir de la communication et publication scientifique est avant tout digital et basé sur l'open access. Je dis avant tout parce qu'il restera sûrement des aspects de la communication scientifique présentant d'autres paramètres que le digital ou l'open access. Tout comme dans l'histoire du livre imprimé et du manuscrit, l'une chose n'avancera et ne remplacera pas automatiquement l'autre. Mais il faudra, si nous ne voulons pas être pris de court par les développements, préparer les meilleurs chemins vers une transition digitale en tenant compte de tous les acteurs engagés dans ce processus. Avant tout, et je parle ici comme historienne du livre, il faut entreprendre une dépolarisation entre l'imprimé sur papier et le digital. Ce processus implique un changement en ce qui concerne les formes de diversité de formats de publication. Et ce changement va main dans la main avec le développement des mécanismes d'évaluation qui garantissent la qualité des publications digitales en libre accès, et ceci en accord avec les principes fondamentaux de la recherche en sciences humaines. Ce processus de transformation a déjà été mis en route et il faudra viser des pratiques de publication adaptées et justes pour tous les acteurs, dont la principale préoccupation est la qualité scientifique et non des contraintes financières. Le Young Researchers Forum de la Fondation européenne de la recherche a résumé cette nouvelle situation comme suit. A key aspect of the future publishing culture in the humanities is to develop new opportunities to catalyze positive change in prevalent modes of institutional authority. It is necessary to facilitate access to the scholarly community in order to democratize participation and collaboration between peers because innovative scientific work takes place in numerous contexts outside traditional scholarly genres. Ces réformes démocratiques de pratiques de publication scientifique, au sens propre du mot réforme dans le sens de donner une nouvelle forme à quelque chose, a comme conséquence un changement des rôles des individus et des institutions qui y participent, par exemple les bibliothèques, les archives et le monde de l'édition. Un point restera crucial, c'est le chercheur en sciences humaines qui doit rester le garant de la haute qualité intellectuelle des résultats obtenus. Nous ne devons et ne pouvons pas déléguer cette responsabilité ni à des algorithmes de citation, ni à des éditeurs commerciaux, d'où aussi l'importance de développer des critères et l'importance de la formation. Cette garantie est indépendante de la médialité du support textuel choisi. Par conséquent, les raisonnements sont trop faibles qui, au sein du débat pour les publications digitales, visent à créer un topos idéalisant une dichotomie de l'imprimé traditionnel prétendument stable versus la volatilité du digital. En tant qu'historienne du livre, cet argumentaire me frappe, surtout l'idée qu'une monographie en sciences humaines, en somme, la publication phare de notre recherche, doivent passer par l'imprimé sur papier pour être crédible et prise au sérieux. On suggère ici que les livres n'existent ou ne peuvent exister qu'en forme imprimée et que seulement l'imprimé sur papier représente l'instance de stabilité, de poids, c'est lourd, de filtrage, de l'élitaire et de la qualité de notre savoir. À ce stade, ce raisonnement devrait s'écrouler comme un château de cartes, car il ignore les siècles, voire les millénaires avant l'imprimerie en Europe et les confine dans le néant de la connaissance. Ce raisonnement se brise finalement contre la définition fondamentale du livre. Un livre n'est pas en soi un garant de la transmission du savoir devant être ou avoir été imprimé sur du papier. Ce discours masque des siècles de production, d'interconnexion et de transmission du savoir, par exemple sur du parchemin ou d'autres supports. Ces supports fonctionnaient parfaitement et produisaient des livres qui permettaient des textes dont aucune copie n'était identique l'une à l'autre. donc des textes fluides. On parle souvent de la fluidité du digital, mais la fluidité des manuscrits médiévaux, c'est presque la même chose. Ce faisant, ils ont engendré des silos collaboratifs de savoir qui créèrent des conditions nécessaires pour les grandes entreprises intellectuelles et scientifiques à travers les siècles, notamment à partir de l'humanisme. Ces manuscrits en parchemin apprennent à celui qui prend le temps de les regarder et de regarder notre monde digital en perspective à vol d'oiseau, que nous avons affaire avec des étranges valeurs de reconnaissance et de similarité, par exemple les marges, les commentaires et les annotations successives. Le livre imprimé, lui aussi, doit apprendre à trouver sa place dans l'histoire des médias en longue durée, sans vouloir en être la condition sine qua non. C'est pour ça qu'il faut aujourd'hui se tourner vers la diversité des formes de publication et de communication scientifique et les intégrer non seulement dans notre façon de travailler, mais aussi d'évaluer ce travail. Pour conclure, j'aimerais faire une synthèse des points qui me semblent importants en tenant compte des recommandations que nous avons conceptualisées au sein de la Fondation européenne de la science. Il faudra dans le futur proche assurer, premièrement, un changement vers des cultures de reconnaissance académique qui valorisent le caractère méthodologique et l'orientation vers le caractère processuel des humanités numériques. Deuxièmement, un changement de culture de publication centré vers une conception de l'open access et de valeurs égales aux pratiques traditionnelles de dissémination. Les formats sont multiples et vont entre autres de la monographie, de l'article, de la banque de données, comme nous l'avons vu aujourd'hui avec Gremlin. Où sont les credits pour tous ceux qui ont donné à manger dans la banque à données de Gremlin pour qu'ils puissent pouvoir faire des candidatures pour postuler à d'autres postes, et aussi pour tous les outils de visualisation des données. Ça va aussi du cahier de recherche scientifique jusqu'aux micro-publications qui pourront souvent remplacer des articles scientifiques gonflés artificiellement sur des mini-sujets. Troisièmement, un changement dans la culture d'évaluation avec prise en considération de nouvelles formes de travail académique et du fait que la recherche en sciences humaines ne peut être mesurée de la même manière que les sciences naturelles et que cette recherche a ses propres rythmes et ne peut pas toujours être planifiée en cycles de plus en plus courts. Et avec des budgets de plus en plus grands, je peux faire des choses merveilleuses avec peu d'argent en sciences humaines. Il faut me laisser le temps de le faire, c'est tout. Quatrièmement, l'inclusion systématique de la diversité linguistique et du multilinguisme comme élément clé, non seulement de la recherche européenne, mais aussi au-delà de l'Europe, comme nous l'a montré Caroline Ferrer tout à l'heure. Y sont liés les facteurs de la publication scientifique de cette recherche et de la reconnaissance de cette diversité linguistique comme un atout. Nous avons donc besoin aussi d'argent pour, par exemple, financer des traductions. Oui. Cinquièmement, l'établissement de mécanismes de clearing pour la garantie de la qualité scientifique dans les publications et les évaluations des projets interdisciplinaires pour lesquels aujourd'hui il manque encore des déroulements et des règles précises pour les évaluateurs. Je sais par exemple que certains fonds nationaux de recherche n'ont pas de programme pour les projets interdisciplinaires. Alors on confine ces projets dans un tiroir disciplinaire. Les humanités numériques, c'est soit chez les informaticiens, soit chez les disciplines traditionnelles. Mais il faut des nouvelles règles pour évaluer et pour aussi comprendre ces projets interdisciplinaires. Il manque des déroulements ici précis. Et last but not least, une reconnaissance adéquate et une attribution des participations individuelles et collectives dans cette recherche et la création de perspectives de carrière pour les jeunes chercheuses et chercheurs qui font avancer l'intégration des technologies digitales dans les sciences humaines et les relie de façon innovatrice aux sciences sociales et surtout aussi aux sciences naturelles. Cette liste que j'ai dressée n'est pas exhaustive et beaucoup de ces points touchent à des contextes plus larges que les sciences humaines et les humanités numériques. Surtout la situation en dehors du monde anglo-saxon, avec la diversité des langues et des cultures, nous offre une grande densité et une richesse inouïe en héritage culturel. Saisissons cette chance de le préserver, de le comprendre scientifiquement et de le communiquer adéquatement, notamment dans le cadre d'initiatives comme une Humanistica et de conférences comme celle-ci à Montréal. J'aimerais aussi faire une petite publicité et vous inviter à la DH Autumn School des universités de Luxembourg et de Trèves fin septembre 2015. Nous avons prolongé la deadline jusqu'au 17 août. Nous avons des bourses de formation de la Fondation Volkswagen pour des bourses de recherche. Donc si vous avez envie de prendre l'avion dans l'autre sens et de venir nous voir au Luxembourg et à Trèves, faites une demande, c'est pour les jeunes chercheuses et les jeunes chercheurs, nous serons vraiment très heureux de vous y accueillir. Le programme est en ligne. Et last but not least, je vous remercie de votre attention.